L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est.
McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans.
Agro, j'écoute. L'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro, j'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano.
Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire.
En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan.
Le 18 octobre dernier, le Canard enchaîné publie dans un mail du directeur de l'ARS Occitanie, alertant sur la présence de polluants éternels dans l'eau du robinet, appelée substance perfluoralkylée. Selon lui, l'eau du robinet ne doit plus être consommée et il faut privilégier l'eau en bouteille. Autre événement récent, en novembre dernier, un pesticide cancérigène, le chlorothalonil, a été retrouvé dans l'eau du robinet dans le département de la Vienne. Malgré ces alertes, l'eau en bouteille est-elle vraiment toujours plus qualitative que l'eau du robinet ? Vaut-il mieux consommer de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet ? Qu'en est-il d'un point de vue environnemental ? Nous sommes trois étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan. Antoine.
Bonjour à tous.
Étienne.
Bonjour.
Et moi-même, Anaëlle. Et nous allons tenter de répondre à ces questions. Au cours de ce podcast, nous aborderons donc les aspects environnementaux des bouteilles plastiques et les aspects de qualité de l'eau potable. Nous recevrons deux intervenantes, Camille Redinger et Magali Péter, sur chacun de ces deux aspects. Étienne, je te laisse la parole.
Merci Anaëlle. Donc moi, je vais vous parler dans un premier temps de l'impact environnemental des bouteilles plastiques. Mais d'abord, on va s'interroger sur qui consomme des bouteilles plastiques en France. Et bien, selon France Info, en France, on consomme plus de 140 bouteilles d'eau en plastique par an et par personne. Ça représente une consommation de 9,3 milliards de litres d'eau. C'est assez conséquent quand même, c'est plus d'une bouteille de 1 litre tous les 3 jours. Alors que l'accès à l'eau potable en France, il est sécurisé depuis de nombreuses années quand même. Après, le chiffre précédent de 1 litre tous les 3 jours, c'est une moyenne. Il faut effectivement faire une distinction entre les consommateurs réguliers d'eau en bouteille et les consommateurs occasionnels. Ça fait de nous quand même le sixième pays le plus consommateur par habitant de bouteilles d'eau en plastique. Cette consommation d'eau, elle représente un cinquième de la consommation d'eau en France. Et dans le monde, les pays qui consomment plus d'eau en bouteille que nous, c'est des pays qui ont souvent pas d'accès ou un accès partiel à l'eau potable, comme par exemple la Thaïlande ou le Mexique. Donc suite à cette consommation, on va vouloir savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour créer des bouteilles plastiques. Donc la fabrication d'une bouteille plastique de 1 litre, ça nécessite de l'énergie et des ressources matérielles significatives. Au niveau des matériaux, les bouteilles en plastique, c'est principalement fabriqué à partir de polyéthylène terephthalate, le PET. C'est un polymère dérivé du pétrole. Il faut tenir compte des autres matériaux utilisés pour fabriquer l'étiquette, le bouchon et éventuellement des emballages supplémentaires pour le transport. Au niveau des énergies, la production d'une bouteille en plastique, ça nécessite de l'énergie pour extraire, raffiner et transformer le pétrole brut en polymère plastique. De plus, de l'énergie nécessaire pour les processus de fabrication, notamment le moulage par injection ou par soufflage, le transport des matériaux. Les estimations, elles varient, mais la production d'une bouteille en plastique de 20 litres, ça peut consommer environ 3 à 5 mégajoules d'énergie.
Mais qu'est-ce que ça représente, 3 à 5 mégajoules d'énergie ?
C'est comme si tu faisais tourner ton lave-linge deux fois d'affilée. Bien que l'eau, ça soit pas directement utilisé dans la fabrication du plastique, l'eau aussi, elle est souvent nécessaire pour les processus industriels de refroidissement dans les usines. Au niveau du recyclage, par contre, le PET, c'est quand même, il fait tout de même partie des polymères les plus faciles à recycler. 58% des bouteilles plastiques ramassées sont recyclées pour fabriquer tout autre type d'objet en plastique. S'ajoute quand même à ça tout le transport d'acheminement du plastique au site de recyclage, puis à l'usine de distribution. Et je pense aussi, c'est important de le noter parce qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant de ça, mais le prix du plastique recyclé, il a un coût fixe par rapport à celui du pétrole qui varie, lui, tous les jours. C'est donc parfois, selon le cours du pétrole, plus rentable pour des entreprises d'acheter du plastique neuf que du plastique recyclé.
Attends, ça veut dire que d'un point de vue économique, pour une entreprise, ça coûte moins cher d'acheter du plastique neuf que du plastique recyclé ?
Exactement, après c'est selon le cours du pétrole. Et au niveau des impacts environnementaux, on sait bien, le plastique il pollue, c'est un problème pour les océans, la diversité marine et pour les émissions de gaz à effet de serre. Une bouteille en plastique, elle mettra minimum 100 ans à se dégrader dans l'environnement. C'est pour ça qu'en raison d'un fort taux de rejet de bouteilles dans l'environnement et des faibles débouchés du plastique recyclé, on note l'apparition d'amas de déchets plastiques. Comme par exemple le plus marquant, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est celui du 7e continent, qui est composé de plastique, responsable d'une perte massive de biodiversité marine. Alors il fait une surface de 3,5 millions de kilomètres carrés, c'est quasiment 6 fois la surface de la France, et je vous invite, chers auditeurs, d'ailleurs, à rechercher des images sur Google pour voir ce phénomène qui va probablement vous choquer, mais pour moi, il faut être au courant et il faut le voir pour y croire. Et donc maintenant, Camille Riedinger, elle n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui, mais on l'a interviewée il y a quelques jours et elle va vous présenter, pour vous présenter son travail autour de l'économie circulaire du plastique. Donc bonjour Camille, merci beaucoup d'être ici. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire quel poste tu occupais chez Danone et aussi parle-nous un peu de ton sujet de mémoire de fin d'études.
Ouais, bah salut, du coup, ouais, Camille Riedinger, j'étais stagiaire chef de projet en économie circulaire dans l'équipe OPO, O-P-O-H, qui est l'acronyme pour One Planet, One Health de Danone. Donc c'est une équipe qui a pour projet l'exploration de business models innovants pour réduire la production d'emballages plastiques à usage unique de Danone. Voilà, donc moi j'ai participé au développement d'expériences en rapport avec l'économie circulaire. Et j'ai rédigé mon mémoire sur le sujet de comment construire un business model à la fois économique et écologique pour Danone et ses clients.
Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la notion d'économie circulaire, du coup ?
Ah oui, ouais. Alors du coup, l'économie circulaire, c'est un modèle qui vise à dépasser le modèle linéaire actuel qu'on connaît tous, qui consiste à acheter, consommer et puis ensuite jeter le reste. Et en fait, ce modèle-là appelle à la consommation, une consommation sobre, à la réutilisation des emballages, le recyclage aussi, et par exemple aussi la valorisation des déchets.
Est-ce que tu pourrais nous parler du coup des lois mises en place par l'État autour des bouteilles plastiques ?
Oui, alors tu as donc la loi AGEC. Il y a un décret qui a été publié. Je crois que c'était en 2020, qui s'appelle le décret 3R. Et ce décret fixe l'objectif de réduire de manière progressive ces emballages plastiques à usage unique entre 2021 et 2025. Donc c'est, la deadline est assez proche, quoi. Et c'est ce décret qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de plastique inutile, comme les pailles. En fait, ce décret a pu supprimer les pailles, les touillettes à café, les cotons-tiges. Donc voilà. Et en fait, ce décret 3R guide les entreprises pour la mise en place du réemploi, recyclage et réduction. Donc c'est en fait, ces trois mots composent le fameux 3R. Donc si je développe un peu le réemploi, dans le réemploi, on entend le réemploi de bouteilles avec un système de consigne. Donc on rend la bouteille qu'on a achetée un peu plus chère. On a une ristourne sous forme d'argent ou bien de bons d'achat.
Il y a d'autres solutions donc pour le réemploi que le système de consigne.
Ouais, donc il y a voilà ce réemploi, mais il y a aussi le vrac qui est compté dans le réemploi, parce que depuis 2021, les vendeurs de vrac sont obligés d'accepter les contenants rapportés par les consommateurs. Voilà. Et ensuite, donc ça c'est pour le réemploi, il y a le recyclage. Donc cette partie-là, le but, c'est de faire en sorte qu'un emballage plastique soit entièrement recyclable. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. C'est dit que l'emballage est recyclable, mais il n'est pas entièrement recyclable. Donc voilà, les industriels essaient de pousser à fond ça. Et pour la dernière partie, on a la partie réduction. Là, c'est réduire le plastique utilisé dans un emballage. Donc on va travailler sur le matériau pour réduire l'épaisseur, proposer des gros volumes. Parce que voilà, quand je te prends un exemple, un gros pot de yaourt de 500 grammes va produire bien sûr moins de plastique que 4 petits pots de 125 grammes.
Ok. Donc si je récapitule, on a le décret des 3R, le réemploi, le recyclage et la réduction.
Ouais.
Et du coup, tu as travaillé, toi, sur une solution qui pourrait être le vrac, donc du réemploi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette solution ?
Ouais. Alors, moi, j'ai travaillé sur deux missions en rapport avec le vrac. La première, c'est, ça consistait à comprendre comment on pouvait mettre en vrac du yaourt. Donc c'est hyper intéressant, c'était hyper intéressant parce que le vrac, c'est facile pour les produits ambiants surtout, mais quand on touche à des produits qui sont des produits humides comme le yaourt ou alors des produits sucrés comme le miel ou la mayonnaise, pour les produits humides, la date de péremption, en fait, elle est de quelques jours à quelques semaines, donc c'est assez compliqué de mettre ces produits en vrac. Donc voilà, c'était un gros challenge sur lequel j'ai travaillé. Et la deuxième mission, c'était un peu la même chose, de comprendre comment on peut mettre de l'eau en vrac, mais là, c'est sous forme de fontaine, mais c'est l'eau de Danone, donc Evian. Il faut savoir que Evian fait partie de Danone. Donc comment mettre Evian en fontaine et la proposer au secteur des hôtels, cafés et restaurants. Et en fait, j'ai travaillé sur une expérimentation
autour de
cette fontaine, c'est ça.
Et du coup, cette solution, elle est déjà appliquée ou pas encore?
Alors, c'est encore sous forme d'expérimentation. La fontaine, c'est un prototype. Mais ce qui existe aujourd'hui, c'est les fontaines qu'on connaît tous. Au Crous, tu as une fontaine qui est en fait reliée au réseau d'eau du robinet. Cette eau, elle est filtrée et refroidie avec un système de refroidissement. Mais voilà, dans les hôtels, cafés et restaurants, il y a surtout une forte demande, et particulièrement dans les hôtels, pour l'eau minérale, parce qu'une partie de la clientèle est étrangère et que certains dans les autres pays, en fait, ils ne consomment pas forcément à l'eau du robinet. Et donc, arrivés en France, ils n'ont pas non plus confiance dans cette eau du robinet, même si voilà, elle est traitée. Donc voilà, les hôtels, cafés, restaurants ont l'objectif de veulent remplacer ces bouteilles 50 centilitres tout en gardant cette clientèle étrangère.
Et bah, cette solution, elle semble prometteuse. Moi, j'y penserai à chaque fois que j'irai au Crous maintenant.
Voilà.
Bon, bah, merci beaucoup, Camille, pour ton intervention. C'était vraiment très intéressant. Et,
merci à vous.
Oui, merci beaucoup Camille pour cette intervention qui nous permet de clore notre partie sur l'impact environnemental des bouteilles plastiques. Alors maintenant, on va vous parler des différences de qualité entre ces eaux. Pour ça, on verra déjà quel type d'eau vous préférez à travers un petit micro-trottoir. Et puis, nous vous parlerons de l'impact de l'agriculture sur les zones de prélèvement et les pompages d'eau. Et ensuite, on aura l'honneur d'accueillir Madame Magali Peter, chercheuse spécialisée en nutrition, qui abordera le sujet de la qualité de l'eau. Mais avant ça, on vous laisse sur une petite pause musicale. Restez connectés et à très vite.
Dans la clairière bleue, siffle pour moi les jours heureux. Sa chanson plane là-haut dans le ciel, entre la terre et le sol.
C'était un morceau de Isabelle Aubray intitulé « Le ciel, la terre et l'eau » tiré de la bande originale du film « Alexandre le Bienheureux » en 1966. Nous sommes toujours sur l'émission Agro J'écoute et nous reprenons sur le sujet de la qualité de l'eau en bouteille et du robinet. Donc comme nous avons vu avec Étienne et notamment l'intervention de Camille, la consommation d'eau en bouteille en plastique, elle a un impact négatif sur l'environnement, alors que pourtant on a de l'eau potable au robinet. Donc ce que nous avons fait dans un premier temps, c'est qu'on est allé interroger nos camarades de classe via un petit micro-trottoir pour leur demander s'ils consommaient de l'eau en bouteille et quelles étaient leurs raisons d'en consommer. Est-ce que tu consommes de l'eau en bouteille? Et si oui, pourquoi?
Alors, je ne consomme pas du tout d'eau en bouteille. Je préfère consommer l'eau du robinet parce que je trouve que c'est un peu aberrant écologiquement parlant. Donc, je préfère boire de l'eau du robinet. Je la filtre pas forcément, mais voilà.
Oui, ça m'arrive d'en consommer parce que déjà, il peut y avoir plusieurs goûts dans l'eau en bouteille. Et puis, je trouve aussi que c'est plus qualitatif que si on prenait de l'eau au robinet. Genre, c'est un peu comme une sécurité.
Alors oui, je consomme de l'eau en bouteille pour deux raisons. Déjà, pour la première, c'est quand il n'y a plus d'eau dans le robinet à cause des sécheresses estivales ou des travaux ou quoi que ce soit d'autre. La deuxième, c'est quand il pleut beaucoup. Les stations d'épuration, je considère qu'elles ne peuvent pas traiter aussi bien qu'elles le peuvent l'eau. Et donc, je préfère boire de l'eau en bouteille pour ma santé, pour une courte durée du coup.
Non, je consomme pas d'eau en bouteille parce qu'on se rend compte qu'au final, ça fait énormément de plastique. Et puis surtout, c'est une ressource qui devient assez chère.
Alors, j'évite à la mesure du possible, mais j'avoue que comme je suis quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau, des fois, ça me permet un peu de me rendre compte de la quantité d'eau que je bois par jour.
Oui, je consomme de l'eau en bouteille et j'en consomme parce que l'eau du robinet chez moi est pas bonne. Du coup, l'eau en bouteille est de meilleure qualité.
Donc nous pouvons voir dans ces témoignages que la plupart de nos camarades y consomment de manière plutôt occasionnelle l'eau en bouteille pour diverses raisons, des questions de goût de l'eau, de disponibilité, de qualité et d'autres raisons très diverses. Et par exemple, ma grand-mère l'autre jour, elle me racontait qu'elle consomme de l'eau du robinet, sauf quand elle reçoit des gens parce qu'elle trouve que ça fait mieux de servir de l'eau en bouteille. Et ça montre que parfois il y a même des raisons psychologiques. Mais on voit qu'il y en a quand même dans nos camarades qui parlent d'éviter d'en consommer ou qui n'en consomment pas du tout, justement par conscience écologique. Donc après s'être interrogé sur les raisons qui lui poussaient à consommer de l'eau en bouteille, on s'est dit qu'il fallait quand même se faire des définitions. Qu'est-ce qui définit vraiment ce qui est eau en bouteille et eau du robinet? Et d'abord, on a appris que l'eau en bouteille, elle était classée en deux catégories. Il y a les eaux de source et les eaux minérales. Donc les deux, elles sont issues de nappes souterraines qui sont profondes ou protégées des activités humaines. Elles sont naturellement propres à la consommation humaine, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de subir de traitement pour être potables, ou alors elles en subissent très peu. Les seuls traitements autorisés sont l'aération, la décantation et la filtration, mais il n'y a pas de désinfection de l'eau. Donc les eaux dites de source, elles ont les mêmes normes que l'eau du robinet, alors que les eaux minérales, elles peuvent contenir des teneurs en minéraux et oligo-éléments qui sont supérieurs à ce qui est acceptable au robinet. Et pour être commercialisées, les eaux minérales, elles doivent être reconnues comme bénéfiques pour la santé par l'Académie de médecine et le ministère de la Santé. Et en fait, pourquoi elles sont chargées en minéraux? C'est parce qu'elles s'infiltrent dans des zones qui s'appellent des impluviums, où c'est des zones où il y a des roches particulières et elles vont s'enrichir des minéraux de ces roches avant d'être captées pour être mises en bouteille. Et l'eau du robinet, quant à elle, elle peut provenir de nappes souterraines ou même de cours d'eau, de fleuves. C'est une eau qui, elle, est traitée. Donc elle subit des traitements physiques, chimiques et biologiques pour enlever toutes sortes de particules ou de substances. Et du coup, elle subit, elle, une désinfection. Et après, elle est contrôlée par deux types de contrôles. Il y a un contrôle officiel par l'ARS, qui est l'Agence régionale de la santé, et une autosurveillance permanente par les stations de traitement et les services de distribution. Je laisse maintenant la parole à Antoine sur l'aspect agriculture.
Merci Anaëlle. Donc maintenant, on va vous parler, nous, du lien entre l'eau potable et l'agriculture. L'agriculture, ça occupe une grande place dans notre territoire en France. Et c'est elle qui fait le lien entre le monde terrestre et le monde souterrain. En fait, ce sont les différents éléments déposés à la surface qui peuvent traverser le sol, avec des phénomènes de lixiviation ou de lessivage et atterrir jusque dans les nappes d'eau souterraines. Du coup, l'agriculture exercée sur nos sols, elle influe forcément sur la qualité de l'eau que nous pompons dans les nappes phréatiques pour boire. Le lien entre la qualité de l'eau et l'agriculture est complexe et multifactoriel. En raison de multiples interactions, par exemple entre les pratiques agricoles, l'utilisation de produits chimiques, ruissellement de sol, gestion des déchets agricoles. Et tous ces facteurs ensemble y contribuent de manière indépendante à la contamination potentielle d'eau de source, impactant ainsi du coup la qualité de l'eau potable. L'utilisation des pesticides et des engrais, elle peut augmenter la quantité de produits chimiques dans l'eau, via des phénomènes, comme j'ai dit, de ruissellement, d'érosion ou d'écoulement à travers le sol, et donc détériorer la qualité. Par exemple, les nitrates contenus dans l'eau proviennent à 66% de l'agriculture selon le CNRS. Et ils constituent une cause majeure de la pollution des grands réservoirs d'eau où l'eau potable est filtrée et stockée avant d'être distribuée dans le réseau. En fait, c'est les engrais azotés, la nourriture des plantes, utilisées par les agriculteurs qui déposent ces nitrates à la surface. Et avec les puits, ces nitrates peuvent être lessivés et contaminer les nappes phréatiques. Et ce risque de contamination il peut être très grave pour la santé. Donc c'est important de protéger les cours d'eau de surface et les cours d'eau souterrains. Alors pour lutter contre ces pollutions de nitrates, il existe des périmètres autour des zones de captage, c'est-à-dire que des contrats sont faits avec les agriculteurs pour réduire les pollutions de l'eau. Ça peut être par exemple des contrats zéro pesticides ou réduction d'engrais, ou aussi une agriculture durable qui nécessite moins de produits chimiques et donc moins de pollution d'eau. Il y a aussi des zones tampons le long des cours d'eau qui permettent de réduire ces pollutions de nitrates. Une zone tampon, c'est une zone écologique située le long du cours d'eau, de la rivière ou du fleuve, sur lesquelles l'utilisation de produits chimiques sont énormément réduites. Et l'objectif, c'est de protéger à la fois la qualité de l'eau, mais aussi de préserver les écosystèmes aquatiques. Donc maintenant, on va recevoir, comme annoncé, Madame Magali Peter, qui va nous parler de la qualité de l'eau que nous buvons. Magali Peter, bonjour. Vous êtes enseignante chercheure en agroalimentaire et nutrition à l'école d'ingénieurs de Purpan, à Toulouse.
Oui.
Et est-ce que vous confirmez toutes nos définitions sur les différents types d'eau que l'on énonce depuis le début ?
Oui, tout à fait. J'ai pas grand-chose de plus à rapporter.
Alors, nous allons faire appel à vos compétences. Pour vous, qu'est-ce qui différencie ces différentes eaux dans leur composition et qu'est-ce qu'apporte en plus de l'eau minérale par rapport à de l'eau de source ?
En fait, vous l'avez déjà dit en introduction, les eaux se chargent en minéraux et en oligo-éléments de manière naturelle en fonction des roches qu'elles vont traverser. Donc, si les eaux du robinet proviennent de sources, si elles ont traversé des roches, elles vont s'enrichir en minéraux à un oligo-élément. Par contre, si c'est des eaux du robinet qui viennent d'eau plutôt de surface, il n'y aura pas de minéraux et pas d'oligo-éléments à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, les eaux minérales en bouteille, elles se caractérisent par une composition qui reste stable, donc avec des teneurs en minéraux et en oligo-éléments qu'on connaît, qui sont indiquées sur les étiquettes. Elles ont en plus des effets thérapeutiques reconnus en lien avec leur composition chimique. Donc, par exemple, une eau riche en bicarbonate pourra participer à une meilleure digestion. Elles reçoivent pour ça une autorisation du ministère de la Santé. Au moment de la mise en bouteille, il y a un dossier qui doit être établi pour qui fait preuve justement de ses effets bénéfiques. Et donc voilà, l'eau minérale contient en général plus de minéraux que l'eau du robinet.
Et c'est ça qui va attirer les consommateurs du coup vers des eaux minérales parfois.
C'est ça. Enfin, chaque eau et les bienfaits qui vont avec vont être déterminés par sa composition. Et donc il peut y avoir des publics différents qui vont être attirés par certaines bouteilles en fonction de leur composition.
Par exemple, les femmes enceintes ou des types de publics comme ça ?
Effectivement, par exemple, pour les eaux riches en calcium, elles sont intéressantes pour les femmes enceintes. Ce type d'eau, elles vont être intéressantes aussi pour les végétaliens qui ne mangent pas du tout de produits animaux et qui, du coup, sont en manque de calcium et ça peut être néfaste, ça peut leur apporter des problèmes d'ostéoporose. Ce qui peut être le cas pour les personnes âgées aussi. Donc, on peut conseiller à ces personnes de boire des eaux riches en calcium, par exemple.
Du coup, l'eau en bouteille, est-ce qu'on peut les considérer comme, entre guillemets, plus pures, vu qu'elles sont moins traitées que...
Alors, plus pures, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, la pureté d'une eau en bouteille par rapport à la pureté d'une eau en robinet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'eau du robinet va subir un grand nombre de traitements, des traitements physiques, chimiques, biologiques, afin d'éliminer plein de choses, les matières en suspension, les produits chimiques, les produits toxiques, des minéraux potentiellement excédentaires ou des germes. Donc toute cette panoplie de tests fait qu'effectivement, elles vont être beaucoup plus traitées que les eaux en bouteille.
Quels sont du coup les inconvénients parfois pour des eaux minérales ? Est-ce que des excès de minéraux, par exemple, dans la composition ?
Alors, effectivement, il peut y avoir s'il y a une consommation exclusive et prolongée d'eau minérale, il peut y avoir des troubles dus à une trop forte minéralisation. Mais en règle générale, les minéraux qui sont présents à l'intérieur, ils ont des seuils à ne pas respecter. Enfin, des seuils à respecter, pardon, des seuils à ne pas dépasser. Donc, il peut pas y avoir un excès de minéraux à l'intérieur de la bouteille. C'est plutôt un excès de consommation Par exemple, si on boit beaucoup d'eau riche en sel, ça peut majorer le risque d'hypertension artérielle. Ou si on boit de l'eau trop riche en fluor, ça peut être source de fluorose dentaire. Et ça peut être dangereux pour les enfants, par exemple, qui prennent aussi du dentifrice souvent enrichi en fluor. Donc, ça va faire une dose de fluor un peu trop importante.
Donc, il faudrait alterner les différentes sources d'eau, quoi, en fait.
Tout à fait, ouais.
Et on a eu en Occitanie récemment un scandale sur une pollution aux perfluorés et aux pesticides, au point que l'ARS, Agence régionale de la santé, est conseillée en interne de boire de l'eau plus en bouteille que du robinet. Alors est-ce que c'est un phénomène récurrent? À quel point c'est dangereux? Est-ce qu'il existe des risques de consommer du coup l'eau du robinet chimique ou de pollution de l'eau?
Bon, alors vous l'avez bien expliqué, effectivement c'est l'ARS qui s'occupe de vérifier la qualité de l'eau. Alors déjà, ce qui est important de noter, c'est que l'eau, c'est l'aliment le plus surveillé au niveau des contrôles sanitaires. Mmh. Donc en règle générale, même s'il y a des risques de pollution, il y a toujours des contrôles qui sont effectués. Et s'il y a la présence de substances nocives, comme des métaux lourds par exemple, qui peuvent être dangereux pour la santé, des nitrates, des pesticides, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, ben, on va être tout de suite au courant et on va mettre en place des interdictions temporaires de la consommation, par exemple, en attendant que les taux soient revenus à la norme. Donc ça existe, c'est dû à des pollutions, essentiellement des pollutions de milieux agricoles, comme vous l'avez expliqué, donc c'est plutôt dans des zones à forte activité agricole. D'ailleurs, dans ces zones-là, il se peut que... la teneur en nitrate soit à la limite, pile poil à la limite des doses autorisées. Et donc, on peut conseiller dans ces zones-là aux femmes enceintes et aux enfants de limiter la consommation d'eau du robinet à cause de ces teneurs en nitrate qui sont un peu limites.
Et du coup, si on repasse sur l'eau en bouteille, on sait par exemple qu'il y a des microplastiques qui sont nocifs pour l'homme. Mais est-ce qu'il y a un réel danger donc, pour l'homme dans ces bouteilles plastiques?
Alors ça, c'est une grande question aussi. Effectivement, la principale critique qu'on peut donner à l'eau en bouteille, c'est la présence de ces microplastiques. Donc, il y a beaucoup d'études qui sont menées là-dessus pour mesurer la teneur en microplastiques. Il y en a une qui a été menée sur 9 pays, dont le Liban, l'Inde ou les États-Unis, qui avait relevé dans 250 échantillons d'eau en bouteille qu'il y avait 93% des échantillons qui contenaient des microplastiques. Donc, la taille de ces plastiques varie énormément. Ça peut aller de la largeur d'un cheveu humain à la taille d'un globule rouge. Dans certaines bouteilles, il y en a des milliers, dans d'autres, il n'y en a pas du tout. Donc ça, c'est effectivement pour confirmer la présence de ces microplastiques. Après, l'effet santé reste encore aujourd'hui méconnu. On a des conclusions pour l'instant de l'OMS qui concluent à un risque plutôt faible, mais qui souligne surtout le manque de données fiables et le manque de travaux nécessaires encore aujourd'hui pour étudier tout ça. Bon, il y a déjà des travaux qui sont sortis. On sait par exemple que des minuscules tailles de plastique peuvent pénétrer dans la circulation sanguine du rat avant de se loger dans les reins et le foie. Donc, c'est des risques pour la santé. Donc, on a mesuré pour l'instant sur l'animal et qu'on peut penser possible aussi pour l'homme. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'études qui le démontrent. Bon, en tout cas, il est essentiel, je pense, de diminuer l'exposition au plastique parce qu'il n'y a pas que les microplastiques présents dans les bouteilles en plastique, mais il y en a aussi dans d'autres aliments. On sait qu'aujourd'hui, on avale à peu près 5 grammes de plastique par semaine. C'est l'équivalent de la taille d'une carte bancaire.
Et est-ce que vous avez quelque chose à nous dire pour conclure, des travaux, des actualités particulières sur le sujet?
Pas spécialement. Il y a de nombreux travaux qui sont en cours aujourd'hui pour vérifier la dangerosité de la consommation en eau. Donc, bien sûr, la thématique des microplastiques, la thématique de la recherche des substances nocives. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une certaine liste. Mais on se rend compte qu'il y a des nouvelles entités de pesticides, par exemple, qu'on ne mesurait pas avant et qu'on mesure actuellement. Et c'est vrai qu'il y a des nouveaux outils qui sont développés pour réussir à vraiment trouver quelle est la nature de toutes ces molécules présentes dans les eaux, que ce soit les eaux en bouteille ou les eaux du robinet.
Oui. Donc en fait, pour résumer, il peut y avoir des choses qui impactent la qualité des deux types d'eau, que ce soit eau du robinet avec des résidus de pesticides ou eau en bouteille avec des microplastiques. Mais quand même, normalement, c'est assez sécurisé des deux côtés et il manque des recherches peut-être des deux côtés aussi. Quoi.
Exactement.
Et du coup, pour conclure, est-ce que vous consommez plus de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet?
Moi, je consomme plus d'eau du robinet parce que c'est plus pratique, mais je bois quand même de l'eau en bouteille aussi, notamment des eaux riches en bicarbonate quand je fais du sport.
Bah, merci beaucoup, Madame Peter, pour toutes ces précisions. Je crois qu'à présent, le sujet est plus clair pour nos auditeurs et pour nous aussi. Maintenant, il est temps pour nous de rendre l'antenne. On espère que cela vous aura intéressé et qu'à présent, vous serez mieux avertis sur vos consommations en eau. On remercie aussi Campus FM pour nous accueillir aujourd'hui, notre école Purpan, la région Occitanie, l'agence de l'eau, ainsi que notre prof, Madame Sophie Yvon, qui nous a encadrés pour ce podcast. On vous souhaite une bonne journée et à très vite sur AgroJ'écoute.